France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, votre rendez-vous du samedi sur France Info, à la radio et à la télé, en compagnie de Jeannick Halimi, rédactrice adjointe, en chef adjointe du service politique au journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Bonjour,
bonjour
Jeannick.
Bonjour.
Et c'est vous qui allez poser la première question à notre invité ce matin, ancien ministre de la Défense, actuel président de la région Normandie et président des régions de France.
Alors Hervé Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu comme nous et vous êtes au courant bien sûr qu'il y a une forte mobilisation, en tout cas une mobilisation attendue aujourd'hui de la part des Corses dans l'île, peu avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous connaissez, on va aborder tout à l'heure leurs revendications, et vous-même vous êtes singularisé quand même sur la scène politique en étant favorable, en vous exprimant en faveur d'un pouvoir législatif délégué aux Corses, ainsi que l'inscription dans la Constitution de la spécificité Corse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas seul, en tout cas sur la scène nationale française ?
Je ne me sens absolument pas seul, puisque, je vais vous dire, c'est même la position du chef de l'État.
À Lombo.
Mais bien sûr.
C'est pas évident, hein ?
Vous oubliez que lors du congrès de l'Association des maires de France, le président de la République a repris une vieille idée du temps jadis de l'UDF, qui est celle du droit à la différenciation, du droit à l'expérimentation dans les collectivités, et aussi du droit à pouvoir adapter la réglementation ou la législation. Et le chef de l'État l'a annoncé comme étant faisant partie des réformes constitutionnelles qui seront présentées dans quelques semaines, avec la réduction du nombre de parlementaires qui sera le bienvenu, et d'autres choses de ce genre. Ce que nous demandons, nous, Régions de France, et ce que nous demandons pour donner de la vivacité à la gouvernance publique, pour qu'elle soit adaptée aux problématiques de chaque territoire, c'est qu'on puisse expérimenter, innover. Nous avons cette capacité d'innovation. Je vais vous prendre des exemples concrets.
C'est quand même très loin des revendications des Corses aujourd'hui.
Attendez, qui peut croire ? Alors après, on va parler de la Corse. Mais je termine sur cette histoire d'expérimentation. C'est des sujets qui peuvent paraître techniques et qui sont pourtant éminemment politiques, d'innover. Moi, président de la région Normandie, je demande à gérer les grands ports maritimes. Pourquoi ? Parce que je constate que les pays dont les ports marchent sont les grands pays, sont des ports qui sont gérés par les collectivités. Ce sont les ports du nord de l'Europe.
Vous demandez langue normande soit reconnue comme une langue officielle
bien,
à l'instar
mais
du
je
français.
N'ai pas dit que je...
Vous
ne
demandez pas un statut fiscal spécifique pour
c'est
la Normandie.
Oui, bien sûr qu'il serait logique qu'en Corse, compte tenu de son insularité, qu'il y ait un statut fiscal particulier. Je ne suis pas d'accord avec toutes leurs propositions, bien entendu. Mais je considère que ce qui s'est passé en Corse, ça n'est pas simplement la victoire d'une majorité, d'une liste régionale qui aurait fait son boulot. C'est un fait politique. Quand vous avez un tel résultat, quand une liste porte un tel message, on ne peut pas simplement considérer que c'est la victoire d'une liste contre une autre, comme on peut le voir dans les autres régions de France. Il y a là l'expression politique de quelque chose de profond en Corse. Et donc, je dis simplement, j'ai eu l'occasion de le dire au Premier ministre lors de la Conférence nationale du territoire, je lui dis, vous ne pouvez pas, Monsieur le Premier ministre, traiter ça comme simplement, bon voilà, il y a une liste qui a gagné. Non, c'est un fait politique et il faut l'entendre. Et je crois que le gouvernement le sait qu'il faut l'entendre. Mais je dis que plus globalement, quand on a la chance d'avoir un pays décentralisé, capable d'innover, d'expérimenter, il faut des collectivités qui soient capables d'avoir le nerf, l'énergie, pour porter des politiques adaptées au territoire. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes en Ile-de-France, en Normandie et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Chacun ses spécificités.
Les élus corses qui attendent en tout cas beaucoup de la visite d'Emmanuel Macron à partir de lundi. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a d'ailleurs entrouvert la porte la semaine dernière.
Je pense qu'il peut être, je l'ai dit et je le répète, l'homme d'État qui va poser un cadre politique qui va permettre de sortir définitivement d'un conflit qui a empoisonné les relations entre la Corse et la République depuis un demi-siècle dans la période contemporaine.
C'est dans le discours du président de la République.
Gilles Simeoni, donc, sur France Info la semaine dernière. Hervé Morin, est-ce que Emmanuel Macron peut être l'homme qui débloque la situation avec les Corses ?
Le président de la République fait pas partie de sa majorité, mais c'est la première fois que j'entends un vrai discours girondin. Il a plutôt une attitude jacobine.
Girondin, c'est-à-dire
décentralisateur, faisant confiance à l'autonomie locale, à l'autonomie de la société, en vérité.
Mais où on place le curseur ? Parce que après, on peut risquer d'arriver à une situation comme la Catalogne à terme.
Écoutez, franchement. Vous pensez qu'il y a une région en France qui est sur une démarche comme celle-ci? Si moi je défendais cette idée-là en Normandie, on me dirait il est toqué.
Bon, mais
en même temps, quand Alain Rousset, pour prendre un autre exemple, président de la région Nouvelle-Aquitaine, revendique l'idée d'avoir la compétence emploi, non pas pour l'indemnisation du régime d'assurance chômage, mais pour gérer les demandeurs d'emploi, quand il s'agit déjà d'une grande partie de la compétence des régions que de gérer les plans de formation, que de gérer, que de soutenir l'économie régionale, etc. Il y a l'apprentissage, il y a tout de même des cohérences qui pourraient nous amener à pouvoir porter des politiques avec beaucoup plus de pertinence. Et c'est ça que nous revendiquons.
Donc plus d'autonomie, en gros, sur le côté économique, en principe, en
les Corses priorité. Réclament un pouvoir plein et entier sur les questions du tourisme. Ça vous paraît complètement absurde ? Les Corses considèrent, et ils ont raison, qu'ils ont sur les sujets de l'urbanisme des problématiques particulières parce que...
Vous êtes d'accord pour un statut spécifique pour les résidents corses, notamment en matière immobilière? Non mais concrètement.
Concrètement.
Vous n'êtes pas d'accord là-dessus?
J'ai eu l'occasion de dire à Gilles Simeoni, qui est un homme remarquable, je lui ai dit, je suis d'accord sur la démarche, je ne veux pas être d'accord sur un certain nombre de points.
Là, on est quand même, monsieur, à des modalités très concrètes que demandent les élus corses.
Attendez, on peut considérer que sur le principe, on est d'accord sur un certain nombre de choses et considérer que dans le détail, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous, à titre personnel. Mais admettez l'idée qu'il puisse y avoir des constructions particulières. On a fait, par exemple, une grande région qui est la région Grand Est. Les Alsaciens auraient pu créer une collectivité unique regroupant départements et régions. Il y a 36 solutions qui pourraient s'offrir.
Sur la Corse, mais Hervé Morin, est-ce que vous êtes pour l'amnistie des prisonniers corses, par exemple?
Je ne vais pas être favorable à l'amnistie. En plus de ça, quand on a derrière tout ça en tête l'idée qu'il y a, par exemple, l'assassinat d'un préfet. Mais je peux aussi être favorable à l'idée que la Corse ait un statut particulier et que la Corse puisse avoir des compétences particulières. Parce que la question, par exemple, du logement, c'est un vrai sujet en Corse quand les prix de l'immobilier deviennent absolument démentiels.
On va continuer de balayer l'actualité politique de ce week-end avec notre invité Hervé Morin et avec Jeannick Halimi. D'abord, toute l'info de ce samedi matin à 8h40 avec Léo Chapuis.
Après 48 heures de garde à vue, Tariq Ramadan a donc été mis en examen hier soir pour viol. L'intellectuel controversé, figure du monde musulman, est accusé par deux femmes des agressions qui remontent à 2009 et 2012, à chaque fois dans des hôtels en marge de conférences. 11 départements du bassin de la Seine restent en alerte orange aux inondations. La Marne, notamment, continue de monter. Le pic de crue est attendu aujourd'hui à Gournay-sur-Marne, en banlieue parisienne où les habitants ont les pieds dans l'eau. En tennis, la France et les Pays-Bas sont à égalité un partout. C'est le premier tour de la Coupe Davis. Place au match en double cet après-midi. Et puis en football, gros carton de Marseille. Hier soir, c'était face à Metz. L'OM qui l'emporte 6-3 au stade Vélodrome. Les Marseillais qui récupèrent du coup la deuxième place du championnat avant le choc demain entre Monaco et Lyon.
La suite du 8h30 politique sur France Info avec notre invité, le président des régions de France, le centriste Hervé Morin, et avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique au journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
Alors Hervé Morin, on va changer de sujet. Le gouvernement vient d'annoncer un plan de départ volontaire dans la
fonction. Est-ce qu'il l'a vraiment annoncé ou est-ce que c'est le discours simplement du ministre du budget, non?
Je pense qu'il l'a annoncé, ça a été confirmé tout de même par le Premier ministre et pas mal des ministres du gouvernement, ainsi que par Emmanuel Macron, en Tunisie, en tout cas sur l'orientation et la trajectoire. Bref, il y a une grande réforme en préparation de l'État avec 120 000 suppressions d'emplois sous la forme de départ volontaire dans la fonction publique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dispositif, au moins dans son principe? Vous-même, je rappelle, lorsque vous étiez au ministère de la Défense, vous aviez programmé la suppression de mémoire de 50 000 postes au sein de votre ministère.
000, oui.
Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron et son gouvernement?
Ce qui est certain, c'est qu'on a un niveau de dépenses publiques qui est le plus élevé des pays occidentaux et que cette situation ne nous amène pas à la prospérité. Au moins, reconnaissons déjà ce principe. Reconnaissons aussi que le pays est à un tel niveau de charge de fonctionnement que ses capacités d'investissement sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, le budget de l'État, sorti de l'investissement en matière de défense, il n'y en a plus. Les seuls qui investissent sont les collectivités, il n'y a plus rien. L'État, faut pas demander à l'État d'investir à part égale sur un
peu rapide tout de même.
Je vais prendre un exemple. Oui. Je vais prendre un exemple concret pour que nos compatriotes comprennent. Nous voulons créer un grand pôle de génomie parce que nous avons des équipes de chercheurs de très haut niveau à Rouen. Quand on met autour de la table le CHU, la région et l'État, sur un plan, sur un programme d'investissement de 10 millions, si la région n'emporte pas 60 ou 70%, l'État met 200 000 balles dans une histoire comme
donc
ça.
Donc il faut réduire les fonctionnaires
non,
ou
mais est-ce, au que, vous voulez, faut est-ce que vous voulez bien me laisser finir?
Mais allez-y, répondez à la question sur la suppression d'emplois dans la fonction publique.
Est-ce que je peux poser les questions?
Et sur le plan de départ.
Voilà. Donc, premier point, on a un niveau de dépenses publiques trop élevé. Deuxième point, nous n'avons plus de capacité d'investissement. Troisième point, est-ce qu'on a besoin d'un plan de départ volontaire? Pas convaincu.
Ah bon ?
Je suis pas convaincu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des départs à la retraite chaque année. Je crois de mémoire. Pardon, j'ai pas vérifié exactement les chiffres. Mais il doit y avoir entre 100 et 120 000 départs à la retraite chaque année dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on fait un plan de départ volontaire sur un schéma qui est grosso modo le plan de départ à la retraite. Alors on me dit, c'est pas forcément les mêmes. Oui, mais enfin, ceux qui partiront, qui volontairement partiront, seront pas...
Mais pourquoi vous-même aviez programmé alors 50 000 suppressions?
Mais parce qu'il fallait réorganiser le ministère de la Défense en profondeur, et c'est là où j'allais y venir. Il fallait mutualiser, supprimer les échelons intermédiaires, faire en sorte qu'on ait un système moins coûteux en dépenses de fonctionnement pour pouvoir investir dans notre outil militaire. On a fait 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement, ministère de la Défense, sans faire de plan de départ volontaire. Je m'étais posé la question à l'époque et j'avais constaté que compte tenu des départs
naturels,
d'autant plus que chez les militaires il y a beaucoup de contractuels, il n'y avait pas besoin de faire ce genre de choses. Mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'avoir de la souplesse, nous avons besoin d'externaliser là où ça doit être fait. On a 36 moyens de le faire. Je ne suis pas convaincu qu'on soit obligé de consacrer des dizaines de millions d'euros, puisqu'un plan de départ volontaire, c'est des niveaux d'indemnisation élevés. Pour le faire, je pense qu'on a besoin de souplesse, je pense qu'on a besoin d'adapter les rémunérations au mérite, mais on a des outils pour ça dans les collectivités. Il y a besoin de souplesse, il y a besoin de se poser à chaque fois la question des modes de gestion, mais plan de départ volontaire, je pense que c'est un instrument...
C'est une expression qui a beaucoup heurté, beaucoup de réactions outrées, notamment à gauche.
C'est de la posture, c'est
on
pas
va
pareil.
Écouter celle du secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, sur Public Sénat hier.
C'est une aberration totale. On a une situation de crise massive dans les EHPAD et dans les hôpitaux, où il faut embaucher. On a la situation dans les prisons. Le cri d'alarme lancé par la procureure de Bobigny sur le manque de moyens dans son tribunal. On a la situation au manque de moyens dans les écoles et les universités. Et que fait le gouvernement? On ouvre la boîte à licencier.
Alors là, Pierre Laurent, hier, sur la chaîne Public Sénat, justement, est-ce que c'est le bon moment d'annoncer un plan de départ qu'il y a un foyer de contestation qui se multiplie un peu partout?
Non, mais ça, les foyers de contestation, OK, il faut avoir le courage de faire les choses ou de ne pas les faire. Malheureusement, nous, souvent, quand on a été au pouvoir, on avait annoncé qu'on les ferait, on ne les a pas faites. Mais, par ailleurs, le plan de départ volontaire, la question que je pose au gouvernement, c'est où? C'est pas dans les hôpitaux. C'est pas dans la police. C'est pas dans la gendarmerie, c'est pas dans la justice.
Notamment
c'est
à Bercy.
On a vu
notamment
au ministère de l'économie et des finances.
Oui, mais c'est quelques milliers de postes. Vous avez pas 100 ou 150 000 fonctionnaires qui sont dont on peut.
Donc vous êtes pour alléger les dépenses de l'État pour plus de flexibilité, mais en même temps, si je puis dire, vous n'épousez pas la stratégie
du gouvernement. C'est plus facile à faire, c'est ça la question.
Écoutez, moi j'ai fait une énorme réforme au ministère de la Défense. Donc je peux en parler parce que j'ai quand même regardé ça très précisément. Quand on a décidé de mutualiser, regrouper, supprimer les échelons intermédiaires, externaliser un certain nombre de fonctions, à chaque fois on s'est posé la question, où est-ce que ça coûte le moins cher, etc. Mais on a constaté que derrière tout ça, le plan de départ volontaire n'y répondait pas. Si le gouvernement démontre le contraire, pourquoi pas? Je ne suis pas hostile par principe. Mais là où je ne vois pas, c'est où ça va se faire.
Et vous avez parlé justement des nombreuses manifestations.
Parce que c'est pas dans l'éducation nationale que vous le ferez.
Un mouvement qui est soutenu en plus
par les. Déjà plus.
On verra effectivement. Bon, voilà. On verra.
Les mouvements de contestation de ces derniers jours sont soutenus dans l'opinion d'après un sondage Odoxa pour France Info. Près de 9 Français sur 10 sont d'accord avec les revendications des grévistes. Est-ce que c'est un signal inquiétant pour le gouvernement?
Écoutez, moi je tout en n'étant pas dans sa majorité, je reconnais que le président de la République a apporté de l'optimisme, apporter un retour de la confiance dans l'avenir, dans la capacité de la France d'affronter le 21e siècle. On a restauré notre image à l'étranger qui était tellement détériorée par 5 ans de hollandisme. Bon, tout ça, on lui doit. Le retour d'une confiance, des acteurs économiques qui ont envie d'investir. Tout ça, c'est bien. Je lui dis simplement au président de la République, méfiance, car monsieur le président, vous êtes en train de vous couper des classes populaires et des Français pour qui la vie est difficile.
La fameuse image du président des riches qui commence à lui coller à la peau.
J'aime pas cette expression, mais je pense qu'il est très clairement, enfin c'est ce que je ressens quand je suis dans ma région, c'est ce que ressentent beaucoup d'élus, c'est qu'il y a en quelque sorte une espèce de fragmentation de l'opinion publique sur l'appréciation de la politique du chef de l'État. Et ça peut pas simplement être des politiques cosmétiques diverses et variées qui vont atténuer les réformes qui étaient en même temps nécessaires sur un certain nombre de sujets. Mais ce qu'ont compris, par exemple, les Français, c'est que le pouvoir d'achat, en 2018, il va baisser.
La réforme de la taxe d'habitation que combat volontiers Laurent Wauquiez, le président des LR, vous, qu'est-ce que vous en pensez? La suppression progressive, est-ce que
réfléchissons,
vous êtes contre? Pas tout à fait à vous entendre.
Réfléchissons. Non, je pense que c'est une connerie d'avoir supprimé la taxe d'habitation.
Ah
mais,
bon,
mais réfléchissons simplement. Pourquoi il avait proposé la taxe d'habitation à l'époque? Parce qu'il proposait la suppression de l'ISF. Donc il s'est dit, il faut que je prenne une mesure de compensation. Et donc il se retrouve avec le sparadrap sur le doigt du capitaine Haddock, c'est-à-dire j'ai promis quelque chose qui est la suppression de la taxe d'habitation. Je pense qu'il faut que la fiscalité des collectivités soit assise sur un impôt qui soit un impôt local. J'ai été maire pendant 20 ans. Quand vous avez un compatriote qui arrive dans votre bureau et qui vous dit, je ne sais pas, il faut refaire les trottoirs, c'est mieux de pouvoir lui dire, mais vous savez, si je refais les trottoirs, c'est tel niveau de
fiscalité. Donc il a quand même eu raison de s'engager dans une grande réforme de la fiscalité locale,
Emmanuel
Macron.
Il faut une réforme de la fiscalité qui responsabilise la dépense. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre la dépense locale et l'impôt local pour faire en sorte qu'on soit raisonnable dans toute une série d'investissements ou de dépenses.
On va aborder la recomposition de la droite dans quelques instants dans la dernière partie
du boulot.
Du 8h30 politique, comme vous le dites, Hervé Morin. D'abord, ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce samedi matin à 8h50 avec Léo Chapuis.
Les nationalistes corses organisent un grand rassemblement cet après-midi dans les rues d'Ajaccio, en plein dialogue avec Paris sur leurs revendications. Eh bien, les nationalistes veulent mettre la pression, ils espèrent une démonstration de force. Emmanuel Macron est attendu sur place dans quelques jours. Tariq Ramadan a passé sa première nuit en prison. L'islamologue controversé a été mis en examen hier soir pour viol. Accusé par deux femmes, il risque désormais un procès aux assises. Sans doute un nouveau règlement de compte à Marseille. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été abattu. Hier soir, il a reçu plusieurs balles dans la tête alors qu'il était au volant de sa voiture. Et puis en rugby, le 15 de France va-t-il enfin renouer avec la victoire? Les Bleus affrontent l'Irlande cet après-midi, premier match du tournoi des Six Nations. Et grande première pour Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur des Bleus qui mise sur la nouvelle génération pour mettre fin à la série noire.
Et avant d'en venir à la recomposition politique de la droite, notamment avec Hervé Morin, revenons-en à la recomposition médiatique que souhaite mener le gouvernement pour le service public. Avec cette première cette semaine, le CSA qui révoque le mandat du président de Radio France, Mathieu Gallet, condamné en première instance à un an de prison avec sursis pour favoritisme quand il dirigeait l'INA et qui a fait appel de cette décision. Le gouvernement parle d'une décision en toute indépendance du CSA, mais ce n'est pas l'avis de Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains au Sénat.
Le problème dans le cas de Mathieu Gallet, c'est le problème de la liberté et de l'indépendance du CSA. Je pense que Mme Nissen est allée trop vite et elle a enfermé le CSA dans une tension qui était compliquée, puisque il suivait son conseil, on accusait le CSA d'être dépendant, et s'il ne le suivait pas, on accusait le CSA d'être trop laxiste.
Voilà, Bruno Retailleau sur RTL avant-hier. Nouveau monde, mais vieille pratique quand il s'agit de l'audiovisuel public, Hervé Morin.
Je pense qu'il fallait, j'aime beaucoup la ministre de la Culture, je trouve une femme très bien, mais je pense qu'elle a fait une erreur en s'exprimant. Dès lors qu'on met en place un système avec une autorité administrative indépendante, on respecte ce principe. Et donc, on la boucle.
Elle a eu tort de s'exprimer avant la décision du CSA.
Voilà, moi je pense que le CSA a eu raison de limoger Mathieu Gallet. Je veux dire, on peut pas à la fois prôner avoir tous les matins des journalistes qui vous expliquent qu'on doit être exemplaire et être à la tête de, si je puis dire, d'une maison qui est la maison, si on considère que la liberté de la presse derrière tout ça, c'est l'idée de la transparence, de la démocratie, etc. Et en même temps, considérer que celui qui est responsable de cette maison, condamné pour favoritisme, il resterait. Ça, tout ça colle pas. Bon, enfin voilà. Mais je pense qu'elle devait simplement attendre la décision du CSA.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un rapprochement entre France 3 et France Bleu, vous qui êtes président de Normandie, et notamment peut-être un rapprochement avec la PQR? Est-ce que ça risque pas de remettre un peu en question la diversité de la presse locale?
Je pense qu'on a surtout besoin d'avoir des programmes qui soient des programmes les plus régionaux possibles, avec des grilles dans lesquelles on fait une large place à l'initiative locale, à ce qui se passe dans les régions, ce qui se passe dans les communes, et donc des programmes dans lesquels on permet à nos compatriotes désormais, étant intégrés dans des ensembles régionaux, qui sont des ensembles régionaux importants, ayant des compétences considérables, je pense qu'il faut qu'il y ait une place pour que les gens sachent ce qui se passe.
Hervé Morin, en matière de recomposition politique, vous avez créé votre propre parti. Vous avez
J'ai toujours eu mon propre parti depuis 2006.
Il a changé de nom.
Il a changé de nom. Vous avez quitté l'UDI, si je ne m'abuse.
L'UDI étant, parce que pour nos compatriotes, tout ça, c'est de la cuisine incompréhensible.
Je vous le fais pas dire.
Voilà. L'UDI n'étant que la construction d'un système fédéral dans lequel il y avait plusieurs partis politiques, dont mon parti,
D'accord. Comme
il y avait le Parti radical.
Voilà, et donc vous avez quitté l'UDI.
Comme le Parti radical.
Voilà, effectivement. Donc vous situez dans un centre entre Laurent Wauquiez, les Républicains et Emmanuel Macron. Mmh. Mais fondamentalement, à vous entendre, on a l'impression quand même que vous avez une certaine appétence vis-à-vis d'Emmanuel Macron, que vous critiquez beaucoup moins que vos confrères, notamment d'ailleurs de façon très surprenante sur la décentralisation, puisqu'on fait plutôt le reproche à Emmanuel Macron d'être centralisateur, pas vous. Bref, vous situez comment par rapport à Emmanuel Macron une majorité de bon aloi?
Attendez. Sur son côté centralisateur ou décentralisateur, ou jacobin ou girondin, j'ai dit qu'il avait eu un comportement jacobin, mais qu'il avait eu au congrès de l'Association des maires de France un discours extrêmement girondin. On verra ce qu'il en sort. Donc, très clairement, moi je pense que la question, c'est pas de savoir où on est exactement aujourd'hui. La question pour nous, centre droit, pour faire court, c'est celle de reconstruire un projet, de se poser la question de qui sommes-nous, que portons-nous comme sujet. On évoque la question de la gouvernance publique, de la construction du système public. Nous disons que nous sommes girondins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les conséquences qu'on en tire? Deuxième exemple, on se pose plus jamais. Je prends des choses, c'est peut-être pas les temps de radio tels qu'on les perçoit, mais il y a des tas de sujets sur lesquels on doit au moins intégrer l'idée que ce monde en transformation nous impose à construire une nouvelle réflexion. Je prends cet exemple simple. Jean Viard, dans un très joli livre qui s'appelle « La lettre aux paysans », expliquait que on vivait 500 000 heures de mémoire au début du XXe siècle, on vit 800 000 heures aujourd'hui. On travaillait 200 000 heures,
concrètement,
travaille
ça veut dire
100 000 heures. Ça veut dire qu'aujourd'hui...
Pour voter la réforme des retraites prépare le gouvernement,
ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système, quand on est dans une vie, et tant mieux, où on a des centaines de milliers d'heures disponibles, où on vit longtemps. Comment construit-on de nouvelles solidarités? Comment cette temps disponible devient un temps collectif? Comment construit-on les équipements publics, les équipements culturels, l'organisation de la société
très
à partir
bien,
de ça? Troisième exemple,
oui.
Les générations, les solidarités entre les générations. Aujourd'hui, on hérite à 60, 65 ans, 70 ans. Est-ce qu'au contraire, on ne construit pas un mécanisme qui permet aux générations les plus anciennes de pouvoir sauter la génération suivante, juste derrière, pour faire en sorte qu'on puisse construire de nouveaux mécanismes de solidarité intergénérationnelle? Toutes ces questions-là, on ne se les pose plus jamais. Les conséquences de l'intelligence artificielle, la démocratie qui... nécessairement
Hervé
Morin,
quel est votre espace, de façon quand même beaucoup plus concrète, quel est votre espace politique entre Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse et Emmanuel Macron?
Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, toutes celles et tous ceux qui sont dans cet espace politique, à un moment ou à un autre, ils finiront par se parler. On a déjà essayé cela avec Xavier et Valérie, puisqu'on a été sur le point de faire un groupe parlementaire.
Mais vous allez parler avec Valérie, comme vous dites, et Laurent Wauquiez, ou vous allez plutôt parler avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe?
Je ne veux pas rentrer dans ce schéma. Donc moi, j'ai commencé un tour
mais
de France.
Mais vous ne craignez pas de n'entrer dans aucun schéma, du coup?
Écoutez, je suis président d'une région, je n'ai aucune intention de rentrer dans aucun gouvernement, je suis tellement heureux dans ma fonction et dans mes responsabilités. Donc, je suis pas dans des schémas de construction, ce que je veux, c'est que nous nous portions simplement pendant quelques mois, puisque de toute façon, nous sommes en phase de décomposition.
Merci.
Donc au moins, ça nous donne cet avantage. Profitons de cela pour rebâtir un projet politique, et après, quand nous aurons bâti ce projet politique, on regardera quelles sont les expressions des uns et des autres, et
quand on vous décidera dites, nous sont les
centristes. Merci Hervé Morin. Homme heureux, donc on l'a compris ce matin, comme président de la région Normandie. Merci Yannick Halimi.
C'est la plus belle région de France.
Et on vous retrouve la semaine prochaine, Yannick, pour un nouveau 8h30 politique. La suite sur France Info, la météo et l'info. Très bonne journée à vous.